depuis 10 ans la croissance des aéroports régionaux français. 86% de leur croissance, a été obtenue par les compagnies low cost.
Acteurs courtisés de l'aménagement du territoire, les compagnies aériennes à bas coût et la plus importante d'entre elles, Ryanair, se sont développées en 30 ans, surfant sur l'envie des consommateurs de voyager sans se ruiner. Elles s'appuient sur une optimisation économique impitoyable, inimaginable dans les compagnies traditionnelles.
Nous n'avons pas de fiche de paye, pas de congé maladie. Si vous volez tout un mois, ils vous payent tout un mois. Si vous volez deux jours dans le mois, ils ne vous payent que deux jours.
Par ailleurs, et depuis bien avant la pandémie, la question se pose de l'usage d'un moyen de transport qui serait à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La crise actuelle pourrait accélérer la prise de conscience que l'eurodéputé écologiste Karima Delli appelle de ses vœux.
Nous avons une urgence. Nous devons montrer à quel point ces compagnies doivent prendre leurs responsabilités en matière sociale, mais aussi en matière environnementale.
Réputé naguère peu soucieux d'écologie, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, affirme que grâce à l'achat d'avions moins gourmands, il est désormais très engagé dans la défense de l'environnement. Une mutation encore plus indispensable depuis la pandémie. L'économie du secteur aérien a été frappée de plein fouet. Ryanair a annoncé début février la pire année de son histoire. Elle prévoit une perte annuelle comprise entre 850 et 950 millions d'euros. Mais paradoxalement, les compagnies à bas coût pourraient être celles qui tireront le mieux leur épingle du jeu. Ryanair s'est ainsi payé le luxe d'ouvrir le 3 décembre, en pleine pandémie, une nouvelle base, la quatrième en France, sur son aéroport historique. Grégoire Le Callot nous y emmène.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Devinez où nous sommes, c'est très très calme. Écoutez ça, on a presque envie de chuchoter. On est dans un aéroport, on ne dirait pas hein, si le premier qui entend un bruit d'avion est très très fort. On est à l'aéroport de Beauvais, pas très loin de Paris, dans le nord de Paris. Ici, c'est une des principales bases françaises de Ryanair. La compagnie irlandaise a d'ailleurs annoncé cette année qu'elle allait encore y renforcer sa position. Et à l'aéroport de Beauvais, aéroport connu pour ses départs de compagnie à bas coût, il ne reste plus qu'une dizaine de vols Ryanair par jour. Sur le parking de l'aéroport, il n'y a donc que des avions avec cette grande lyre sur la dérive qui est le symbole de Ryanair. On va tout de même essayer de trouver quelques passagers. Vous venez d'où
Italie.
Italie, d'accord. Ouais. Donc là, vous allez à Rome, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et vous avez choisi Ryanair parce que c'était moins cher que les autres
Oui, c'était moins cher, rapide, donc oui, bien sûr.
C'était combien moins cher?
80 euros de différence, je pense. C'est quand même quelque chose.
Et vous avez déjà voyagé avec
Ryanair?
Ouais.
Oui. On voyage presque toujours avec Ryanair, en fait.
Ouais. À cause du prix?
Ouais, c'est ça. À cause du prix. Après, parfois, il annule les vols, mais bon, on prend les risques.
Pour les bagages, là, vous payez pas trop cher en plus. Ça fait pas beaucoup monter le prix du billet?
Ouais, quand même, ils ont beaucoup fait augmenter les prix avec les bagages et tout. Tu peux même pas prendre un petit bagage, lui il a juste les petits sacs, donc c'est un peu beaucoup. Mais bon, au final, ils te font payer les prix plus pour les bagages.
Merci. Votre prénom, c'est
Sarah.
D'accord, et ben bon voyage.
Merci,
bon retour
à vous
en Italie.
Aussi. Au revoir. Merci.
80 euros d'économie pour Sarah. Hors promotion, les premiers prix sur le site de la compagnie tournent autour de la vingtaine d'euros. Même si le prix a un peu doublé ou triplé avec les options, il reste quand même deux fois moins cher qu'un vol comparable sur une compagnie classique. Alors, comment fait Ryanair pour nous proposer ses tarifs? Pour mieux comprendre l'envers du décor, nous nous rendons dans le centre de Paris, dans un bel immeuble de la rive gauche de la Seine. C'est là que se situe le Centre d'études et de prospectives stratégiques, un cabinet d'études économiques. Il est dirigé par un spécialiste du transport aérien, Loïc Tribault-Laspierre.
C'est une très belle réussite économique puisque c'est un modèle low cost qui a damé le pion, et particulièrement sur le court moyen courrier en Europe, à la plupart des grandes compagnies. Le modèle repose sur effectivement d'offrir des prix très bas, ce qui intéresse la plupart, notamment des clients. Mais avoir des prix très bas nécessite d'avoir une politique adéquate. Alors, la politique adéquate, c'est tout simplement, au départ, avoir des avions qui coûtent moins cher que les autres. N'oubliez jamais que dans la construction aéronautique, le prix d'un avion est différent. C'est-à-dire, c'est en fonction du client, c'est en fonction des options. Et en l'occurrence, Ryanair a eu cette force de dire « je suis désormais un client de référence », comme par exemple l'a été jusque ces dernières années Emirates. Dire « si j'achète, c'est très bon pour vous, c'est un signal fort envoyé aux autres compagnies, car je suis intransigeant et ça marche pour moi. Et en fonction de ceci, j'ai besoin d'avoir des tarifs et des prix adéquats. De surcroît, je peux acheter non pas 10, mais 20, 30, 40 avions. » Donc ça, c'est le premier point, la capacité qu'a cette compagnie d'avoir une position forte vis-à-vis des constructeurs, en jouant de temps en temps soit Airbus, soit Boeing. Le deuxième élément, c'est d'avoir une politique salariale extrêmement agressive, ce qui avait amené à des grèves et à un ajustement. Mais dans le contexte actuel, Ryanair a donné le « là » en disant à l'ensemble de ses salariés « solidarité oblige, on va diminuer pour certains de 5 à 20% les salaires. Si ça ne vous convient pas, c'est la porte. » Mais on n'arrête pas là. C'est aussi la capacité qu'a cette compagnie de pouvoir négocier avec un certain nombre d'aéroports et de voir notamment sur certains territoires, dire voilà, j'arrive, je peux déverser tant de passagers. Je suis donc un outil d'attractivité de votre territoire. Ça va faire du développement économique. Donc en fonction de ceci, premièrement, je ne veux pas que ça coûte cher. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une politique de subvention ? Ça a été revu et recorrigé ces derniers temps par la Commission européenne, mais Ryanair a bénéficié de ceci en usant de toutes les possibilités offertes par les subtilités du marché. Donc ce qui fait qu'elle a des coûts qui sont tels qu'ils sont moindres par rapport aux autres compagnies. Lorsqu'on regarde le coût d'exploitation pour une compagnie comme Ryanair, le coût d'exploitation d'un passager, c'est de l'ordre de 31 euros. Pour une compagnie moyenne, style Air France et autres, c'est 100 euros en Europe. Norwegian, qui est aussi une compagnie low cost, on est aux alentours, ne nous l'aurons pas, de 87 euros. Donc le leader dans la compression des coûts, c'est Ryanair. Ryanair ose tout. Tout est possible. Vous avez un modèle qui est le modèle du Corsair. Le modèle Corsair, il va jusqu'au bout, jusqu'à la limite de ce qui est possible de faire. Parfois rattrapé par les institutions européennes, mais ça fait partie du modèle. Tout est possible, on va jusqu'au bout de l'impossible.
Ladies and gentlemen, you're all very welcome on board this somewhat delayed Ryanair flight to Dublin.
Et le Corsair des airs a pris à l'abordage le ciel européen. En 1985, la petite compagnie fondée à Dublin par Tony Ryan ne proposait à ses passagers que d'aller à Londres. Mais en 1994, nouveau capitaine, un Irlandais excentrique, volontiers provocateur et stratège sans scrupules, Michael O'Leary.
Thank you for that very warm introduction.
Au nez et à la barbe des vieilles compagnies aériennes, il pousse à son maximum le modèle économique du low cost jusqu'à devenir la première compagnie aérienne d'Europe.
Ryanair, low fares made simple.
Pour lui, ces compagnies régulières sont, je cite, des junkies perfusés aux aides d'État. Mais le capitaine Corsair se garde bien de rappeler au passage que son modèle de réussite privée ne méprise pas non plus les aides publiques. C'est ce que pointe régulièrement l'eurodéputé vert Karima Delli, présidente de la commission transport du Parlement européen.
On a tendance à présenter Ryanair comme un modèle de réussite privée, alors que la compagnie, et je le dis, elle profite de subventions publiques à outrance. Ça peut être des subventions territoriales, des aides européennes au lancement des lignes dans des aéroports périphériques, etc. Ryanair perçoit parfois jusqu'à 800 millions d'euros, voire 1,1 milliard d'euros de subventions par an. Et ce sont des perfusions publiques d'autant plus aberrantes qu'il existe chez Ryanair des orfèvres de la finance offshore qui savent bien comment construire les meilleurs véhicules financiers et pratiquer avec brio l'optimisation fiscale. C'est sur ça aussi que l'Europe doit absolument travailler. Et ensuite, la force de Ryanair, qui a également bouleversé le monde de l'aviation, c'est qu'en cassant les coûts de production, le low cost, il a eu une influence très importante sur les compagnies traditionnelles. C'est Ryanair qui a forcé à baisser les prix et a changé la manière de voyager, au point que, par exemple, Air France a commencé à diminuer ses prix et que même des compagnies traditionnelles ont créé leur propre filière low cost. C'est Ryanair qui a imposé aussi, ce qui est quand même terrible, un modèle, et les autres n'ont pas su montrer à quel point c'était autre chose qu'il fallait présenter. Ils se sont pliés au modèle du low cost.
Il faut dire que le modèle du low cost n'attire pas que les autres compagnies aériennes. Il séduit aussi les aéroports et les villes moyennes. Nous étions par exemple tout à l'heure à Beauvais. Et bien grâce à Ryanair et aux autres low cost, depuis 1997, cet aéroport est passé de quelques dizaines de milliers de passagers par an à 4 millions. Toute une histoire.
Cela fait seulement une semaine que Ryanair est installé en France et c'est déjà un beau succès. 3 vols quotidiens et des prix imbattables. 400 francs l'aller-retour jusqu'au mois de juillet, 700 francs ensuite. C'est 3 fois moins cher que sur Air France ou Aer Lingus. Pour offrir de tels tarifs, la compagnie fait décoller ses avions de Beauvais à 1h15 de bus de Paris. Ici, les taxes aéroportuaires sont 5 fois moins chères qu'à Roissy ou Orly.
Grâce à cette liaison, 150 000 passagers de plus transiteront par l'aéroport international Beauvais-Tillet cette année. Aujourd'hui, l'avenir du site semble assuré.
Ça devrait être une très bonne bouffée d'oxygène. Très logiquement, bien sûr, tous ces gens qui vont arriver sur Beauvais, c'est quand même un renouveau important.
Thomas Jouin, président de l'Union des aéroports français et francophones associés.
Et accessoirement ou essentiellement, je ne sais pas, mais...
Alors, directeur des aéroports de La Rochelle-Île-de-Ré et Rochefort-Charente-Maritime.
Et Thomas Jouin, c'est un président d'aéroport heureux. L'idylle entre Ryanair et l'aéroport de La Rochelle commence en 2003. Une histoire, non pas d'amour, mais de bon compte.
L'aéroport comme La Rochelle, comme quelques autres aéroports en France, ont recherché en effet des sources de développement à une époque où finalement... Un certain nombre de compagnies aériennes désertaient nos aéroports en nous expliquant comme quoi il n'y avait plus de potentiel pour relier nos villes. Autant vous dire que lorsque vous êtes dans une région particulièrement enclavée, lorsque vous avez la possibilité avec une compagnie aérienne de reconnecter cette ville et notamment par rapport à un potentiel touristique à l'étranger très fort, vous regardez à deux fois avant de tourner le dos. Donc la discussion s'est engagée. Ce qui était extrêmement intéressant pour l'aéroport, c'est le potentiel de trafic qui était proposé. Le trafic de l'aéroport de La Rochelle était de 35 000 passagers avant l'arrivée et a atteint les 230 000 passagers l'année dernière.
Ryanair bénéficie de subventions sur La Rochelle ou pas ?
Alors, le mot subvention est impropre. Ce sont des mesures d'aide réalisées en investisseurs avisés. Et donc Ryanair, mais également EasyJet, également Jet2, je peux en citer plusieurs, bénéficient de mesures incitatives en fonction de la période d'exploitation, du nombre de passagers, de fréquences. Donc oui, bien sûr, mais ce ne sont pas des subventions.
Est-ce qu'on peut chiffrer ces aides ? Est-ce qu'on peut essayer de les évaluer pour,
non, ça,
pour
c'est avoir... vraiment confidentiel. Chaque accord qu'on passe, vous imaginez bien, avec chaque compagnie aérienne, sont passés sous le sceau de la confidentialité. Et ce serait une faute de ma part de vous dire, voilà, j'ai signé tel accord avec telle compagnie aérienne, tel accord avec telle autre. Par contre, ces accords font l'objet de contrôle éventuellement par la Commission européenne. Et là, ensuite, en effet, la Commission est tout à fait, bien sûr, compétente pour apprécier ces accords.
Et donc, pour donner une idée, hein, vous parlez de la redevance, par exemple, pour l'atterrissage. C'est combien à La Rochelle de faire atterrir mon avion si je m'appelle Ryanair ?
Ça peut atteindre plus de 20-25 euros sur un billet d'avion par passager. Et donc, la compagnie fait son calcul. Et ensuite, elle vous demande de réduire ce coût pour pouvoir se poser sur votre aéroport. Et elle fait notamment des comparaisons avec ce qui est pratiqué par d'autres aéroports, et notamment en Europe. Et c'est là où souvent le bât blesse. Je pense notamment à l'Espagne ou l'Italie, où là, la fiscalité est moins lourde. On veut que tout le monde applique des règles européennes, mais sur un socle fiscal hétérogène.
Il y a quand même, en ce qui concerne Ryanair, souvent des polémiques autour des subventions que la compagnie toucherait pour des aéroports, finalement, sur lesquels elle aurait un côté un petit peu mercenaire.
Je vous assure que la recherche d'une rentabilité pour l'exploitation d'une ligne et la fermeture d'une ligne dès lors que cette rentabilité n'est pas au rendez-vous, elle s'applique à toute compagnie aérienne, que ce soit Ryanair ou les autres. S'ils considèrent que pour eux, les coûts ne sont pas compatibles avec leur modèle, eh bien, ils ne se posent pas chez vous. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand Ryanair quitte une ligne, la plupart du temps en France, aucune autre compagnie aérienne n'est venue derrière.
Et vous, en tant que directeur d'aéroport, justement, enfin, vous voyez votre développement à long terme. Vous sentez en sécurité avec un acteur comme Ryanair ?
Alors, on a changé d'époque. Hein. Vous avez des lignes de service public où là, il y a des obligations de fréquence, de ligne, de maintien de ligne. Mais ensuite, vous êtes dans un monde où les lignes doivent être rentables, que ce soit Air France ou pas Air France. Et cette compagnie, Air France, ferme des lignes, a fermé des lignes et encore récemment quitte des aéroports comme les autres. Pour vous répondre, au contraire, ce qui rassure un directeur d'aéroport, c'est d'être en lien avec des compagnies aériennes sur son aéroport qui sont les plus solides possibles. C'est ça qui compte. C'est pas de dire est-ce que cette compagnie est provocante ou pas. C'est est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle tiendra le choc ? Pandémie, ça c'est clair, et demain c'est encore plus fort. Les compagnies low cost sont aujourd'hui les plus armées pour affronter la crise. Donc au contraire, ça rassure un directeur d'aéroport d'avoir Ryanair, mais d'avoir également, je pourrais en citer d'autres, hein, EasyJet, Volotea, enfin ces compagnies aériennes qui ont un modèle qui fonctionne, qui ont une capacité à proposer des prix qui répondent aux attentes des clients, et donc qui ont une capacité demain à continuer à faire du développement. C'est ce qui compte.
Et le low-cost, ça va se développer ?
Il faut savoir que depuis 10 ans, la croissance des aéroports régionaux français, 86% de leur croissance, a été obtenue par les compagnies low-cost.
C'est après vous pour le décollage, on va.
Interception sur France Inter.
On l'a vu, le modèle développé par Ryanair repose sur une traque sans merci de toutes les économies. Dans cette optique, la compagnie a adopté une politique sociale plutôt rigide, souvent sans dialogue possible entre direction et salariés. En 2018, Ryanair a essuyé la première grève de son histoire dans 6 pays européens.
Ici en Allemagne, le personnel en a complètement marre de cette compagnie. Et il va s'organiser. Et je pense qu'on parviendra à faire changer Ryanair.
Madame, Monsieur, bienvenue à Prague, aéroport Václav-Havel.
On retrouve Grégoire Le Callot à Prague. Il y rencontre Matteo, un ancien steward de la compagnie, qui a tenté il y a quelques mois de créer un syndicat.
Je m'appelle Matteo, je suis italien. J'ai commencé à travailler pour Ryanair en Italie il y a 2 ans et je suis arrivé dans la compagnie sans aucun préjugé. À ce moment-là, quelque chose a commencé à changer parmi les employés. Avec quelques collègues, on a commencé à se dire qu'on avait le droit de parler et qu'on en avait besoin. Parce que jusque-là, chaque fois qu'on tentait de parler en tant que simple employé, on ne recevait pas les réponses qu'on attendait. Et le plus simple pour s'adresser à elle, c'était de créer un syndicat. Nous savions déjà que dans d'autres pays, les salariés de Ryanair avaient des représentants. En Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni ou en France, par exemple. Mais dans d'autres pays comme la République tchèque ou la Pologne, il n'y avait pas de syndicat. Donc nous voulions créer un syndicat et on a commencé à s'informer. On craignait la réaction de la compagnie, alors on a gardé ça secret. Juste au cas où. Nous étions fin 2019 et ensuite malheureusement la pandémie a frappé durement. Nous avons arrêté de voler comme beaucoup d'autres compagnies. Nous recevions un salaire réduit, soi-disant à cause du chômage partiel. Dans ce cas, quand vous êtes un salarié syndiqué, vous pouvez négocier quelque chose de plus avec la compagnie. Mais vu qu'à ce moment-là, nous n'en avions pas, nous avons dû accepter les 60% de baisse imposée par la compagnie. On a bien vu alors que nous avions besoin de représentants syndicaux. Et notre syndicat est né le 22 mai dernier. J'ai été élu président du syndicat. Et une de nos premières décisions a été d'éviter au maximum de dévoiler les noms des membres du syndicat pour éviter toute répercussion sur eux. Encore une fois, au cas où. Et nos craintes étaient bien fondées. Nous avons révélé à la compagnie l'existence du syndicat une semaine après sa création. Nous l'avons informé de l'existence du syndicat qui représentait à la fois les travailleurs indépendants et les salariés. Et du fait que, vu la situation difficile due à la pandémie, nous voulions entamer un dialogue
pour trouver un équilibre entre les besoins de la compagnie qui était durement touchée et les besoins des employés. La réponse de la compagnie, dans les 24 heures, a été de licencier les trois représentants qui avaient dévoilé leur nom.
Donc,
mes deux collègues et moi, on a été virés en 24 heures.
Sans aucune justification.
Le motif était des changements dans l'organisation. Il n'y avait bien entendu aucune allusion au syndicat. Mais c'était tout de même étrange que les trois seules personnes licenciées étaient nous trois, en 24 heures. Nous avons réagi sans attendre, nous avons contacté nos soutiens, nos collègues, nous avons organisé des réunions, nous avons aussi envoyé d'autres courriers à la compagnie, mais elle n'a pas changé d'avis et nous a demandé de rendre nos uniformes. Nous nous sommes retrouvés face à un mur. Le Premier ministre tchèque et tout le gouvernement tchèque ont d'ailleurs déclaré que ce que faisait la compagnie n'était pas légal. Lorsque nous avons recommencé à voler en juillet, après les licenciements d'avril, la compagnie a fait appel à de nouveaux personnels avec des contrats d'auto-entrepreneurs pour remplacer les gens qui ont été licenciés. On pense que probablement ces auto-entrepreneurs, c'était ce que la compagnie voulait vraiment développer. Et vu que ce n'est pas possible légalement de développer l'auto-entrepreneuriat dans ce cadre en République tchèque, il semble qu'elle fasse venir des travailleurs de pays où il est possible d'utiliser ce type de contrat. Le personnel de cabine, les hôtesses, les stewards, jusqu'à présent, n'avaient jamais été sous contrat d'auto-entrepreneur. C'est une situation qu'ils pourraient répandre dans toute l'Europe, et si ça marche, ça pourrait être copié par d'autres compagnies. Ces conditions de travail ne nous rendent pas heureux. Je suis désolé d'utiliser un grand mot, mais elles nous rendent misérables. Compagnie à bas coût ne devrait pas rimer avec traitement au rabais.
Okay. Bye bye. Bye.
Telle n'est pas la vie de Michael O'Leary. Le patron de Ryanair ne voit pas le problème avec les conditions de travail dans sa compagnie. Il jugerait même plutôt son personnel chanceux.
Je respecte les pilotes. Maintenant, ça ne veut pas dire que leur métier n'est pas facile. Et ils sont très bien payés pour ce travail facile. Nous vivons une époque où l'ordinateur fait l'essentiel du vol, mais ils sont très compétents. Après, sont-ils débordés ? Non.
Alors, dialogue de sourds, peut-être pas. Après la grève de 2018, Ryanair reconnaît l'existence de syndicats en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni par exemple. Mais les syndicats ne représentent pas tous les employés. La compagnie low cost a un coup d'avance. Parmi ses pilotes, ses hôtesses, ses stewards, on trouve une autre catégorie de personnel, des auto-entrepreneurs. Alors ceux-là ne protestent pas beaucoup, ils ne parlent pas non plus tant les risques sont grands pour leur emploi. Pour en rencontrer un, nous avons dû protéger son nom, partir le rencontrer dans un lieu anonyme, dans une ville européenne. Il travaille comme pilote pour une filiale polonaise de Ryanair, Buzz.
On trouve ce genre d'emploi, les auto-entrepreneurs, dans de nombreuses compagnies aériennes, dans des compagnies charter aussi. 30 à 40% des pilotes en Europe sont freelance. Chez Ryanair, je pense que c'est 15 à 20% des pilotes. Mais pour sa filiale Buzz, c'est 100%. Au début, j'étais moi-même sous contrat Ryanair régulier, un contrat irlandais. Et ensuite, j'ai été envoyé chez Buzz, parce qu'ils se développaient et qu'ils avaient besoin de pilotes.
Et est-ce que vous avez eu le choix ?
J'avais le choix entre accepter ou partir. L'avantage pour la compagnie, c'est qu'ils ne payent pas de cotisations sociales. Ils vous payent juste pour vos vols. Nous n'avons pas de fiche de paye, pas de congé maladie. Si vous volez tout un mois, ils vous payent tout un mois. Si vous volez deux jours dans le mois, ils ne vous payent que deux jours. Donc, ils économisent beaucoup d'argent comme ça. Ça leur donne beaucoup de flexibilité, mais ça vous met la pression parce que vous n'avez aucune certitude. S'il vous arrive quelque chose, vous n'avez rien. S'ils ne vous apprécient pas, vous volez moins et vous gagnez moins. Par ailleurs, vous ne pouvez pas agir collectivement et avoir des revendications comme salarié. Vous ne pouvez pas être syndiqué parce que tout le monde est auto-entrepreneur. Donc il n'y a pas de syndicat, il n'y a aucun moyen de dialogue avec la compagnie pour les travailleurs. J'ai bien peur que ce soit ce qui nous attend dans le futur, ce type de relation entre travailleurs et entreprises. Uber, par exemple, s'est construit sur le même business model. Ça devait donner plus de souplesse aux travailleurs, mais en réalité, je n'en ai pas. Je n'ai aucune liberté. Je ne peux pas choisir mes jours de travail. La règle, c'est que vous travaillez quand ils veulent. Normalement, ce n'est pas à la compagnie, c'est-à-dire mon client, de décider quand je dois travailler. Ce devrait être un accord entre les deux parties, pas la décision d'une seule.
En juin dernier, par exemple, ils vous ont demandé de baisser vos revenus. Pouvez-vous raconter ce qui s'est passé ?
Le problème quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est que quand tout va bien, vous volez. Vous gagnez de l'argent, c'est équilibré. Mais avec la crise du Covid, tous les avions ont été cloués au sol en mars dernier à cause de la fermeture des frontières partout en Europe. Donc nous ne volions plus. Alors, qu'a fait Ryanair ? Comme toutes les compagnies, ils ont demandé à leurs collaborateurs de revoir leur contrat et de baisser le montant de leurs prestations. Pour nous, c'était une réduction de notre tarif horaire et donc de nos bénéfices. Ils ont fait des changements dans le calcul des payes, mais avec un effet rétroactif. Ce qui est totalement incroyable, parce qu'en tant qu'indépendant, vous volez pour cette compagnie, ils vous payent, c'est du gré à gré. Mais c'est du gré à gré dans le sens qui les arrange. Donc, en avril 2020 déjà, ils ont appliqué des baisses de tarifs. En juin, ils ont changé d'autres règles. Et en juillet, ils nous ont demandé de rendre de l'argent.
Et combien avez-vous perdu ?
J'ai perdu 30% de ce que j'avais gagné de février à juin. 30%, c'est énorme. Mais vous n'allez pas partir voler pour une autre compagnie parce qu'on est en plein Covid et personne n'embauche. Si vous perdez votre job de pilote maintenant, vous êtes fichu pour des années, c'est sûr. Et ils le savent bien, car vous devez maintenir vos qualifications, votre expérience. Donc, si vous regardez plus loin sur le long terme, vous n'avez pas d'autre choix que de rester chez eux. Moi, je n'étais pas préparé à ce type de relation. Et j'ai été très déçu quand j'ai reçu le contrat Ryanair. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne peux pas signer ça. Mais il n'y avait aucune discussion possible. C'était accepte ou va-t'en.
En cas d'évacuation, des panneaux lumineux Exit vous permettent de localiser les issues de secours. Exit.
C'est le cas de Guilhem, un pilote français. Allô Guilhem ?
Oui.
Vous m'entendez bien ?
Incroyable. Oui, je vous entends.
Lui ne travaille plus à Ryanair. Il en est parti parce qu'il avait une promesse d'embauche à Air France, mais c'était en mars 2020. Le Covid cloue les avions au sol et la carrière de Guilhem avec. Alors en attendant de savoir s'il va un jour à nouveau piloter, pour survivre, il a pris les commandes d'un autre engin. Il est livreur à vélo à Montpellier.
Je m'amuse de ça parce que souvent, bon, je livre beaucoup de commerçants, des restaurateurs ou des coiffeurs fermés mais qui doivent quand même prendre des livraisons, etc. Et quand on creuse, eux me disent « mais vous... Vous n'êtes pas impacté ?» Je lui dis « Bon, bah, écoutez, moi, si vous voulez connaître mon vrai métier, je suis pilote de ligne. » Et alors, j'ai deux réactions types. La première, c'est les gens qui sont déprimés de l'entendre et d'autres qui, entre guillemets, s'en amusent, mais de bon cœur, en me disant « Bon, bah, au moins, vous avez trouvé de quoi bosser. » Et bon, moi, j'ai besoin de travailler dans tous les cas et je suis dehors et je pense pas à grand-chose.
Contrairement à d'autres, Guilhem n'a pas mal vécu son passage à Ryanair.
Ryanair ne fait rien d'illégal. Maintenant, Ryanair profite de failles dans le système de la même manière que d'autres compagnies profitent de failles dans le droit européen, dans l'auto-entrepreneuriat, ce qu'on appelle donc les formes atypiques. Et Ryanair est très loin d'être la pire, ou en tout cas le mauvais élève des compagnies européennes. Beaucoup de pilotes s'intéressent à la partie sécurité des vols et à la partie qualité du training, donc de l'entraînement des pilotes. Et là, moi, je n'ai juste aucun doute. La sécurité des vols à Ryanair, elle est exceptionnelle. Elle dépasse de beaucoup les standards qui sont, imposés en Europe, mais surtout les standards d'autres compagnies. On a souvent envie d'entendre, je sais pas si c'est pour se faire peur ou autre, mais on a souvent envie d'entendre qu'effectivement, on ne dort pas, on est sous-payé, on a des avions qui tombent en lambeaux, on a un management qui ne nous respecte pas, etc., etc. Il se trouve que moi, mon expérience personnelle à Ryanair, qui est celle de beaucoup, ça s'est excessivement bien passé. Même si, évidemment, il y a beaucoup de choses à changer, notamment dans cette approche assez brutale du management et de la réduction des coûts, etc., etc.
Mais ça se traduit comment, quand même, cette approche dont vous parlez?
Alors moi, à titre personnel, il m'est arrivé tout simplement d'apprendre la fermeture de la base où je pilotais par email en revenant d'une journée de vol, donc en me posant. Je vois qu'effectivement, on m'a envoyé un email me disant que la base ferme et qu'ils ont engagé des procédures de licenciement collectif à l'encontre de tout le monde. Effectivement, c'est brutal. J'ai pu être transféré donc sur une base en France sous contrat français. Donc ça s'est bien passé pour moi. Ça s'est moins bien passé pour d'autres qui ne voulaient pas quitter la base. Donc voilà.
Et les salaires en fait des pilotes à Ryanair, c'est dans quelle fourchette à peu près?
C'est dans la moyenne, voire la moyenne haute. Une fois qu'on a passé la première barre des 500 heures, mon salaire était déjà celui d'un copilote en début de carrière à Air France. Moi, mon salaire, à titre d'exemple, alors net, lorsque j'étais auto-entrepreneur, donc sans protection sociale, il oscillait aux alentours de 4000 euros par mois. Pour un commandant de bord, il est à peu près du double, donc entre 7 et 8000 euros.
Comme je l'ai sans dit, la protection sociale, donc.
Enfin, c'est une donnée à prendre en compte, effectivement, de se casser la cheville en allant faire du vélo sur un de ces jours de repos, effectivement, derrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salaire, etc. Donc ça, il faut essayer de prévoir ce genre de choses.
Par comparaison, le salaire moyen d'un copilote débutant Air France s'élève à 75 000 euros par an, donc un revenu mensuel d'un peu plus de 6 200 euros par mois. Naturellement, nous avons voulu joindre un Ryanair, mais...
Hi, you reached NM Degas of Ryanair. I'm unable to take your call at the moment. Please call again later or leave a message. Thank you.
Nos coups de téléphone sont restés sans réponse. À nos relances pour demander une interview, par téléphone ou en personne, la compagnie nous a répondu par mail qu'à cause du Covid, elle ne pouvait pas nous accorder cette interview. Nous retrouvons Karima Delli, la députée européenne, présidente de la commission transport du Parlement. L'Union européenne s'intéresse à la régulation du transport aérien et Karima Delli compte parmi celles et ceux qui demandent des règles européennes. Mais les négociations communautaires ne vont pas aussi vite que les affaires.
On a affaire à un acteur qui joue sur les ambiguïtés de l'Europe et le manque d'harmonisation entre les États membres. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne de 2014, elle s'est saisie cette question du contournement des règles. Et en effet, désormais, un emploi salarié est caractérisé par trois critères auxquels doivent répondre tous les pilotes, c'est-à-dire travail effectif, une rémunération et bien sûr une hiérarchie. Et en la matière, une décision du tribunal espagnol de septembre 2018 a changé la donne. Ryanair a été condamné en première instance en Espagne à verser plus de 26 000 euros d'indemnité à un ex-pilote qui avait travaillé pour la compagnie pendant 7 ans en facturant ses prestations comme travailleur autonome via une société écran basée en Irlande. Et à travers ce jugement, le tribunal espagnol reconnaît en fait le statut de salarié à ce pilote et ouvre donc une brèche dans la politique d'externalisation salariale de Ryanair. Ce qui oblige ainsi la compagnie à assumer ses responsabilités en matière de cotisation sociale. La décision du tribunal espagnol, c'est une première en Europe, même si la compagnie low cost a immédiatement fait appel du jugement. Et comme on voit que ça ne va pas assez vite, nous, au Parlement européen, nous avons décidé, puisque nous avons travaillé sur une harmonisation sociale, notamment des salariés du routier, nous sommes en train de travailler sur la question des salariés dans le secteur maritime, et nous allons ouvrir notamment la question du secteur des salariés dans l'aviation.
On voit effectivement que chaque fois qu'il y a une avancée du droit social quelque part, Ryanair le contourne en allant un peu plus loin. Et là, elle crée des filiales, par exemple en Pologne avec Buzz, qui sont 100% auto-entrepreneurs et qui reviennent travailler dans certains autres pays. On a l'impression qu'il y a un contournement là.
Il y a complètement des contournements. C'est la raison pour laquelle il faut siffler la fin de la récré et mettre en place une législation d'harmonisation. Le problème de l'harmonisation, il est que ça dure pendant des années. Rien que pour les salariés du routier, nous avons mis 3 ans pour harmoniser notamment les règles de l'ensemble des routiers à l'échelle européenne, parce que nous n'avons pas la même vision, notamment des pays de l'Est et des pays de l'Ouest. Donc c'est un chantier qui va s'ouvrir, et c'est la raison pour laquelle, je le dis tout de suite, maintenant ce sont aussi les États membres qui doivent prendre un petit peu leurs responsabilités Et là aussi, on doit parler aussi de ces États membres qui déroulent un peu le tapis rouge à ce genre de compagnie parce qu'elles considèrent qu'ils créent de l'emploi dans nos territoires. Et donc, elles accueillent ces compagnies comme Ryanair notamment, à coup d'aide d'État, etc., pour pouvoir les privilégier.
Et les passagers, quand même, prennent goût hein, à ces prix très bas dans l'aérien, puisque l'autre raison pour laquelle Ryanair perdure, c'est parce que y a quand même des clients.
D'une part, il y a vraiment, chez le consommateur, un réveil des consciences à faire par rapport au fait que demain, prendre l'avion, ce sera pas forcément aussi accessible que ce l'est aujourd'hui. Parce que désormais, on a un défi climatique et qu'il va falloir, montrer à quel point il est plus rentable, notamment de prendre le train que de prendre l'avion. Mais encore faut-il que le prix d'un billet de train soit aussi accessible et moins cher. Une autre chose qui est importante, c'est notamment sur la question des carburants. 40% du coût d'un low cost, ce sont les carburants. À partir de là, on comprend que Ryanair tire énormément de profits, notamment de moi, ce que j'appelle un peu le paradis fiscal en Europe, c'est le kérosène. Le kérosène, c'est l'un des rares carburants qui n'a pas de taxe. Et cela veut dire que l'aérien, au fait, aujourd'hui bénéficie un peu, de manière un peu déloyale par rapport au train ou d'autres secteurs, c'est que le kérosène, c'est le dernier carburant fossile non taxé. Et la TVA, elle, est réduite sur les vols intérieurs en Europe. Donc vous voyez que si demain l'Europe décidait de mettre en place une taxe kérosène qui amènerait au budget de l'Europe 27 milliards d'euros chaque année pour une taxe minime, hein, 0,33 centimes le litre, là il y aurait une équité qui serait autre par rapport à d'autres compagnies.
Il y a des discussions qui vont s'ouvrir au niveau européen pour l'harmonisation des réglementations dans ce secteur aérien. C'est quelle échéance aujourd'hui ?
Ça fait maintenant un an que nous demandons à la Commission européenne d'avoir un paquet social sur le secteur de l'aviation. La Commission européenne s'est engagée à le faire. Maintenant, nous n'avons aujourd'hui pas d'ordre du jour à l'agenda politique. Je peux vous assurer que je mets la pression à la Commission pour sortir assez vite, notamment l'ensemble de ces législations, parce que nous avons une urgence. Nous devons montrer à quel point ces compagnies doivent prendre leurs responsabilités en matière sociale, mais aussi en matière environnementale.
Mesdames, messieurs, nous traversons une zone de turbulence.
Interception.
Merci de regagner vos sièges et de rester bien attachés.
Sur France Inter.
En attendant que l'Europe avance, la pandémie a bel et bien bouleversé le transport aérien, au point que la survie même de certaines compagnies semble compromise. Pour avoir une vision globale de la situation, nous avons rencontré Emmanuel Combes, professeur d'économie à l'école de commerce Schema et spécialiste du secteur. Il vient de publier avec Didier Bréchemier « Après le Covid, le transport aérien en Europe » aux éditions de la Fondation pour l'innovation politique. On lui a demandé comment les compagnies, les low cost comme les autres, ont réagi à cette pandémie aussi inédite qu'imprévisible.
On avait d'un côté des géants historiques, j'ai nommé Air France, Lufthansa, qui étaient déjà dans une situation fragile sur le marché Europe, qui ont dû leur salut à l'intervention publique. Pour Air France, on est autour d'une aide qui oscille aux alentours de 10 milliards d'euros, donc ce sont des sommes assez conséquentes. Donc les grands opérateurs historiques, finalement, n'ont dû leur survie que grâce à l'intervention publique. Et de l'autre côté, vous avez les low cost, qui étaient en très bonne santé financière et qui, en revanche, ont baissé très fortement leurs coûts en licenciant, en baissant les salaires, justement pour pouvoir survivre à la crise. Et puis entre ces deux, vous avez ce que j'appelle le middle cost, EasyJet, c'est-à-dire des compagnies low cost, mais qui décollent de très grands aéroports comme Roissy, Orly, qui avaient plutôt une clientèle business. Et ces compagnies-là se retrouvent aujourd'hui dans une très grande difficulté. Donc on a vraiment, pour moi, trois réactions différentes à un même phénomène qui est la crise sanitaire. Donc au fond, celui qui va, à mon avis, tirer le plus grand profit de cette crise, ce sont en réalité les ultra low cost, j'ai nommé Ryanair et Wizz Air, qui pour le coup ont des pratiques discutables sur le plan social.
Parce que finalement, Ryanair, ils annoncent 850 à 900 millions de pertes pour cette année, mais en gros, ils ont un matelas suffisant et ils se payent quand même le luxe d'ouvrir une nouvelle base à Beauvais, quoi. Enfin, en pleine crise sanitaire. Ça va pas si mal.
Ça va pas si mal. D'abord, Ryanair dispose d'une montagne de cash estimée aux alentours de 3,5 milliards d'euros. Donc, elle a le temps de voir venir. Et à n'en pas douter, Ryanair va passer à l'offensive. Je pense qu'à Paris, on ne peut pas exclure et c'est peut-être un des enjeux de la bataille autour de la recapitalisation d'Air France, on ne peut pas exclure que Ryanair postule pour des créneaux de décollage, par exemple sur l'aéroport d'Orly.
Ryanair, justement, pour s'implanter en France, va devoir se plier, entre guillemets, au droit social français. Ça risque de poser un problème.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Ryanair s'est enfin soumis au droit du travail français, hein, puisqu'elle avait été condamnée pour des pratiques, notamment sur l'aéroport de Marseille. Elle avait quitté, en réalité, la France. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sujet. Il n'en demeure pas moins qu'on reste quand même sur une vision très minimaliste de ce qu'est le respect du droit du travail.
On a justement rencontré un pilote à qui on a demandé du jour au lendemain d'aller travailler chez Buzz en Pologne et qui, lui, a dû restituer du salaire. Donc, il y a quand même des moyens de contournement. Encore une fois, on parlait de flibuste tout à l'heure. Ça ressemble un peu à ça, quand même.
Je partage votre point de vue. Néanmoins, Ryanair se joue des différences de droit du travail à l'intérieur de l'Europe. Et donc, oui, tant qu'on n'aura pas d'Europe sociale, en effet, Ryanair pourra comme ça faire de l'optimisation entre les pays. Qui plus est, vous le savez, une partie des pilotes de Ryanair sont en auto-entrepreneurs, ils sont en quelque sorte à leur compte, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment quant à la relation stable qu'ils entretiennent avec la compagnie.
On parle beaucoup depuis la crise du monde d'après. Est-ce que, selon vous, dans le monde d'après, il faudrait moins prendre l'avion ?
Je ne crois pas que la clientèle touristique va changer radicalement de comportement. Je pense que dès que la crise sanitaire sera passée, on risque d'avoir un engouement très 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 fort pour les voyages intra-Europe, notamment de la part de la clientèle touristique. Par contre, vous avez raison, sur un autre type de clientèle, j'ai nommé la clientèle business, qui est celle qui est plutôt la clientèle des compagnies historiques. Eh bien, je pense que cette clientèle-là va être beaucoup plus lente à revenir sur le marché parce que on a pris l'habitude, les entreprises ont pris l'habitude du travail à distance, de la conférence à distance. Et donc, il y a un point d'interrogation sur la clientèle business. Donc, pour répondre très clairement à votre question, nous ne pensons pas qu'il y aura un monde d'après sur la clientèle touristique, sauf, mais ça c'est de la responsabilité des gouvernements, si on met en place des taxes assez dissuasive en matière environnementale. Toute l'histoire du transport aérien depuis 20 ans, 30 ans, ça n'est rien d'autre qu'une histoire de sensibilité au prix. Vous vous apercevez que les consommateurs sont extrêmement opportunistes et parfois d'ailleurs en contradiction avec leurs affirmations sur la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. Alors bien entendu, si le train est équivalent en prix et en temps, à l'avion, il préférera en effet l'option la plus écologique. Mais je ne crois pas que l'écologie en tant que telle va changer radicalement les comportements. Je crois plus à la méthode, si j'ose dire, par la taxe. À partir du moment où vous dites au client il y aura des taxes environnementales extrêmement élevées, le prix du billet remontera et nécessairement vous aurez un calcul rationnel du consommateur. Nous pensons par contre que les entreprises vont y regarder deux fois. Il est évident que ne pas faire voyager ses cadres sup, c'est gagner du temps, gagner de l'argent et être parfois plus efficace.
Les compagnies low cost bénéficient aussi beaucoup d'aides publiques sous forme de facilitation. Quand Ryanair s'installe dans un aéroport de ville moyenne, par exemple, il établit lui-même le cahier des charges et en gros, il bénéficie comme ça déjà d'aides publiques.
Ces subventions en tant que telles ne sont pas interdites. Il ne faudrait pas réduire la rentabilité du modèle Ryanair au fait qu'elle perçoit des subventions. N'oublions pas que Ryanair gagne beaucoup d'argent sur ce qu'on appelle les options payantes. C'est 25% de son chiffre d'affaires. Vous savez, c'est le fameux billet d'avion à 15 euros, mais le bagage est à 40 euros.
Taxer le kérosène, bonne ou mauvaise idée ?
Si vous le taxez, c'est une taxe environnementale, vous faites monter le prix du billet, ce qui peut être une bonne chose si vous voulez que les gens voyagent moins. Mais je trouve que c'est peut-être prématuré en ce sens que le but d'une taxe, c'est en réalité de changer les comportements non seulement des consommateurs, mais aussi des compagnies aériennes qui vont par exemple changer de motorisation. Alors c'est vrai que ça pourrait, en taxant le kérosène, ça pourrait avantager paradoxalement, tenez-vous bien, les low cost. Je vous rappelle que la compagnie en Europe qui est la flotte la plus récente, c'est Ryanair. Donc vous renforceriez paradoxalement la puissance de cette entreprise qui, je vous rappelle, a quand même réussi en pleine crise sanitaire à passer une commande de Boeing 737 MAX qui vont être pour le coup très efficients en termes de carburant.
Votre ouvrage s'appelle « Après le Covid-19, le transport aérien en Europe, le temps de la décision ». Alors la décision, c'est quoi et c'est quand ?
Alors la décision nous que nous envisageons, elle est plutôt sur l'évolution du modèle des grands opérateurs historiques. Nous pensons que les grands opérateurs historiques n'ont pas dit leur dernier mot. Nous pensons qu'il y a encore une fenêtre de tir, c'est peut-être la dernière. Et donc pour nous, le temps de la décision, c'est clairement pour Air France, pour Lufthansa, de se dire nous avons eu la chance d'être aidés par le contribuable, n'est-il pas temps, à la faveur de la crise, de mettre à profit ces subventions publiques pour faire évoluer encore plus vite le modèle, mais je le répète, dans le respect du droit du travail, dans le respect des clients, dans le respect de l'ensemble des règles qui s'imposent à tous les opérateurs.
Ryanair et les low-cost, compagnies aériennes du monde d'après, c'était un reportage de Grégoire Le Callot, prise de son Thibaut Nassim Ben et Frédéric Kérou, disponible en réécoute sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage d'Ofar Guérit. La semaine prochaine, on s'intéressera avec Antoine Vignaud à tous ceux que la crise sanitaire a conduit à pousser vers une reconversion professionnelle.